Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'ONU Info Genève, le podcast du service de l'information des Nations Unies à Genève. Ce mardi se tient au Palais des Nations à Genève un événement intitulé « Une presse pour la planète, protéger les journalistes et les scientifiques dans la défense de l'environnement ». Il est organisé dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai dernier. L'occasion pour l'UNESCO de tirer la sonnette d'alarme, selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, 70% des journalistes environnementaux ont été menacés ou fait l'objet d'intimidation en raison de leur travail. Et au moins 749 reporters traitant de questions environnementales ont été attaqués au cours des 15 dernières années. Toujours selon ce rapport, la désinformation en ligne a connu un essor spectaculaire au cours de cette période. Pour évoquer ces questions et la situation de la liberté de la presse dans le monde, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Andrea Cairola, conseiller en communication et information à l'UNESCO. C'est notre invité cette semaine. Andrea Cairola, bonjour.
Bonjour.
Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant d'évoquer le thème de cette journée, la liberté de la presse dans le contexte de la crise environnementale, quelques mots sur le prix mondial de la liberté de la presse UNESCO Guillermo Cano 2024, décerné aux journalistes palestiniens couvrant les événements à Gaza. Alors pourquoi ce choix ?
D'abord, merci pour l'invitation. Bonjour. C'est un choix fait par une jury indépendant et c'est un choix qui, selon les mots du président du jury, s'était fait... Pour, bien sûr, une reconnaissance des difficultés que les journalistes palestiniens courant Gaza ils ont eues dans les événements dans les derniers 6 mois. C'est un prix qu'il octroyait chaque année par ce jury indépendant. C'est un prix au nom de Guillermo Cano, qui était un journaliste colombien qui était tué à cause de son travail. C'est un prix qui a été donné et dans les dernières années aussi à des journalistes comme Maria Ressa, qui après les prix ont eu les prix Nobel pour la paix. Et c'est le seul prix onusien sur la liberté de la presse.
C'était important de rendre hommage à ces journalistes qui courent à Gaza dans des conditions, il y a eu beaucoup de morts, etc. C'est important de leur rendre hommage.
Oui, bien sûr. Et les journalistes à Gaza est estimé être un petit peu plus de 1 000 nous, comme UNESCO, on fait un monitorage sur les journalistes qui sont tués à cause de la profession. Et il y a malheureusement beaucoup qui étaient tués à cause de ça et beaucoup plus qui sont morts, qui sont blessés, qui ont quitté. Et bien sûr, les défis du travail du journalisme là-bas sont énormes.
Alors dans ce contexte, justement, l'ONU a dénoncé la décision cette semaine de la fermeture du bureau d'Al Jazeera en Israël par les autorités israéliennes. Une décision qui, selon le porte-parole du secrétaire général Antonio Guterres, fait reculer la liberté de la presse.
Oui, c'est parti d'une situation sur le terrain où on a, selon les observateurs indépendants, les ONG spécialisées, on a plusieurs dizaines de médias qui, pour des différentes raisons, ne sont plus dans la mesure de travailler sur place. Soit à la fois, il y a eu des destructions des rédactions, des lieux de travail. Il y a eu des destructions aussi des infrastructures, des missions et bien sûr l'impact qu'on venait déjà de dire sur les journalistes eux-mêmes et la capacité des journalistes de faire leur travail très important.
Alors on le sait, le monde vit dans un contexte difficile aujourd'hui avec de nombreux conflits et des tensions très importantes. Alors quelle est la tendance globale concernant la liberté de la presse dans le monde aujourd'hui ?
La tendance globale, c'est inquiétant. On a une situation de recul. Ça, c'est sur la base du monitorage fait par des organisations spécialisées, mais aussi sur la base du monitorage spécifique qui fait l'UNESCO avec l'Observatoire sur les journalistes tués, et sur la base aussi du mandat de l'indicateur 16-10-1, qui est un mandat pour monitorer en fait les attaques contre les journalistes. Les formes des attaques sont à la fois des attaques physiques, fatales ou pas fatales, à la fois des attaques aussi au niveau judiciaire, il y a beaucoup d'harcèlement judiciaire, et à la fois aussi de plus en plus la question de harcèlement en ligne des journalistes, qui l'impacte beaucoup plus les femmes journalistes. Alors, dans ce contexte, si on regarde l'historique, on a, sauf l'année dernière, de plus en plus de journalistes qui étaient tués dans des situations pas de conflit, avec notamment la région de l'Amérique latine, avec les plus grands nombres. Et par contre, dans les dernières chiffres, bien sûr, avec les événements il y a quelques années, c'est les situations de conflit qui sont revenues à être une des principales causes de morts pour les journalistes.
Le thème de cette journée mondiale de la presse cette année, c'est la liberté de la presse dans le domaine de la crise environnementale mondiale, hein, dans ce contexte-là. C'est d'ailleurs le thème de cet événement au Palais des Nations aujourd'hui. Quels sont les principaux problèmes auxquels les journalistes sont confrontés lorsqu'ils couvrent les sujets sur l'environnement ?
Alors, sur la base de la thématique choisie cette année, on a fait une étude sur les menaces spécifiques qui relèvent du travail des journalistes environnementaux. Sur la base de cette étude, on a vu qu'il y a eu dans les dernières 15 ans au moins 749 cas de journalistes attaqués, 44 et c'était des attaques létales. On a des journalistes qui ont subi un harcèlement judiciaire, qui étaient attaqués physiquement quand ils couvraient des manifs, des journalistes d'investigation qui ont subi des pressions énormes au niveau de censure, d'autocensure. Et les responsables de ces attaques, ça peut être le secteur privé, au moins un tiers, mais peut être aussi les États, presque un tiers.
Comment expliquer justement cet acharnement en fait, hein, contre ces journalistes dans le domaine de l'environnement, alors que la crise environnementale, la crise, vous le disiez, liée au climat, est un défi majeur pour le monde aujourd'hui ?
Je pense puisqu'il y a des grands intérêts, notamment aussi des intérêts économiques énormes dans ce domaine. Alors bien sûr, un travail de journaliste d'investigation qui est du journaliste, bien sûr, vérifier, approfondir, c'est un travail qui fait peur à beaucoup. Au niveau de le domaine que ces journalistes qui étaient attaqués étaient en train de couvrir, ça peut varier du question liée à la déforestation, question liée à l'accès à l'eau, l'accès à la terre, question bien sûr liée à l'exploitation des minéraires et l'exploitation du secteur du pétrole et du fossile.
Dans ce contexte, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement, Michel Forst, dénonçait il y a quelques semaines à ce micro les pressions et intimidations à l'encontre de ces défenseurs qui sont qualifiés par certains gouvernements d'éco-terroristes. Est-ce qu'on peut faire le lien entre les pressions contre les défenseurs de l'environnement et les pressions contre les journalistes qui traitent de ces questions d'environnement ? Est-ce que c'est un contexte global ?
Oui, c'est un contexte global et je pense que les contextes sociaux, les contextes de plus en plus de désinformation sur la question du climat. Et alors, on a fait un sondage ensemble à la Fédération internationale des journalistes. Il y a eu plus de 900 journalistes qui couvrent ces questions spécifiques qui ont répondu de 120 pays. Et il y a un consensus que de plus en plus la désinformation sur les questions climatiques impacte la profession.
Alors justement, les questions environnementales ne sont pas à l'abri de la désinformation et des fake news. Où en est-on aujourd'hui dans la réponse à ces défis ? Est-ce que la communauté internationale est mieux préparée pour y faire face ?
Je pense qu'au niveau de préparation, bien sûr, avoir conscience de ça, c'est une première étape et la journée mondiale cette année dédiée à la thématique avec une conférence globale à Santiago, mais aussi avec plus d'une centaine d'événements autour du monde. Ça fait partie du plaidoyer pour avoir plus de conscience au niveau au moins bien sûr des décideurs sur cette problématique. Après, la réponse, ça doit être une réponse axée sur les droits, une réponse complexe et holistique. Et les journalistes eux-mêmes sont les premiers vérificateurs de faits. Ils ont un rôle de fact-checker et c'est très important. Alors, il faut les protéger, il faut créer les conditions puisqu'ils peuvent faire le travail de façon indépendante et professionnelle. Mais ce n'est pas seulement eux. Il y a bien sûr la question de la transparence des plateformes digitales. Sur ce domaine, comme UNESCO, on vient de développer des lignes guides sur cette thématique pour promouvoir une modération de contenu des plateformes axées sur les droits. Mais après, il y a aussi un côté vis-à-vis la demande, vis-à-vis les consommateurs, entre guillemets, on peut dire. Et sur ça, c'est très important d'investir de plus en plus sur l'éducation à la média d'information, l'EMI, pour avoir un public qui a lui-même des outils pour se défendre vis-à-vis l'information en ligne. Alors, encore une fois, la question de la désinformation sur le climat, c'est une question énorme et la réponse doit être des Nations Unies et au-delà de l'entière communauté du secteur du média et des régulateurs des plateformes numériques, doit être une réponse complexe à un problème complexe.
Et plus globalement, il y a aussi un problème lié aux démocraties. On l'a dit en début d'année que cette année, il allait y avoir un nombre record de populations qui allaient être amenées à voter dans différents processus électoraux, notamment aux élections européennes ici en juin. Et il y a énormément d'ingérences étrangères, on le constate dans ces processus électoraux. Que peuvent faire les organisations internationales, l'UNESCO, pour relever ce défi démocratique ?
Alors oui, cette année, comme on sait, c'est le Super Election Year, c'est l'année où il y a des milliards de personnes qui sont appelées à voter ou qui l'ont déjà voté. Et comme UNESCO, par exemple, on s'est investi vis-à-vis la formation des journalistes pour couvrir les élections, mais aussi un travail avec les autorités électorales ensemble aux autorités audiovisuelles pour avoir une réponse, encore une fois, axée sur les droits à la problématique de l'accès à l'information. Des exemples concrets, ça peut être avoir des codes de conduite acceptés sur base volontaire par les partis politiques vis-à-vis un engagement à ne pas utiliser à la fois des langages qui peut être un langage pas vérifié, mais en même temps d'avoir aussi un dialogue avec, par exemple, les médias et les autres vérificateurs de faits. Et avoir aussi, et c'est aussi une autre partie de la réponse, un mécanisme d'échange entre les plateformes et la société civile. Pour ça, il y a un projet qui s'appelle Social Media for Peace, qui est un projet pilote innovant, mis en œuvre par l'UNESCO, où on a créé des coalitions au niveau local qui les amènent ensemble à la société civile qui s'occupe de la promotion de la liberté d'expression, de l'accès à l'information, qui s'occupe de la gouvernance de l'Internet, aussi qui s'occupe des autres questions qui peuvent être sensibles au temps des élections, avec un dialogue avec les plateformes, les représentants au niveau local des plateformes et avec aussi les autorités électorales.
André Carolin, un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes conseiller en communication et information à l'UNESCO. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, Adélaïde Chauveau à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.